Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Nathalie Cardon.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Vivante Église. Le thème aujourd'hui, après une séparation, quel chemin de vie ? Le sacrement du mariage est un des 7 sacrements de l'Église catholique qui sanctifie cette union entre un homme et une femme, les appelant une communion de vie et d'amour. Ce sacrement de mariage est plus qu'un simple contrat, il est un appel, une vocation particulière, une réponse à l'appel divin à vivre dans l'amour, la fidélité et le don mutuel. Alors que se passe-t-il quand des hommes et des femmes se séparent jusqu'au divorce, mais souhaitent de tout leur cœur, de toute leur âme, continuer à vivre la fidélité à leur sacrement de mariage. C'est le rendez-vous que je vous invite à suivre aujourd'hui dans ce magazine de Vivante Église. Deux invités en plateau que vous allez découvrir dans un instant. Je salue sans plus tarder Emmanuel Houssin. Bonjour Emmanuel Houssin.
Bonjour Nathalie.
Alors vous avez pour mission, et c'est une belle mission que vous avez, Emmanuel, la charge d'être donc directeur d'un pèlerinage national, international, francophone. Et c'est un deuxième pèlerinage de l'Alliance qui se tiendra à Lourdes du 28 au 30 mars 2025. Et ça tombe bien, on est dans ce temps aussi du jubilé de l'espérance. Deux mots sur ce deuxième pèlerinage organisé ici dans ce sanctuaire plein de grâce, puisque c'est un sanctuaire marial.
Oui, merci Nathalie. Effectivement, c'est un moment de grâce en fait de pouvoir faire un deuxième pèlerinage, puisque le premier a eu lieu l'année dernière en avril 2024. Toujours pour la période de l'Annonciation, puisque l'Annonciation est le 25 mars, et nous avons choisi d'installer ce pèlerinage de l'Alliance à la date de l'Annonciation, là, qui reprend le fiat de Marie, le oui de Marie à Dieu, et qui n'est pas sans parallèle avec le oui que nous a donné le jour de notre mariage à notre conjoint, à notre époux, notre épouse. Et donc c'est ce oui qu'on vient remettre et en mémoire pendant ce pèlerinage, et aussi se poser devant le Seigneur, parce que ce divorce, cette séparation, c'est un échec, c'est douloureux, et on est en droit de se demander, mais où est mon sacrement de mariage derrière tout cela, derrière cette vie qui a été cabossée, chahutée? Où est le Seigneur? Comment je peux continuer à vivre ce sacrement qui est pourtant bien présent, puisqu'il est indissoluble, et je crois dans ce que dit l'Église, parce qu'elle est source de sainteté.
Alors vous donnez, merci Emmanuel Houssin, beaucoup d'informations en si peu de temps pour introduire ce Vivante Église. Vous n'êtes pas venu tout seul, vous êtes en binôme pour cette mission radio aujourd'hui. À vos côtés, c'est un frère de la communauté Saint-Martin, ici à Toulouse, un chaplain en mission depuis 2016, que je salue sans plus tarder. Bonjour Don Anne-Guillaume.
Bonjour.
Alors, vous avez aussi, je dirais, une histoire avec Emmanuel Houssin et ce pèlerinage national. Racontez-nous un peu la rencontre, les débuts.
Les débuts, en fait, c'était il y a 3 ans. Donc moi, je suis à Lourdes et j'ai la grâce de pouvoir accueillir en vrai tous les pèlerinages. Et un jour est venue une personne qui voulait organiser une rencontre avec qui était membre de l'association de la Communion Notre-Dame de l'Alliance et qui voulait organiser une rencontre à Lourdes avec des personnes séparés, divorcés, mais non remariés. Et donc moi, je les ai accueillis évidemment, comme j'accueille tous les pèlerinages et tous les groupes de pèlerins. Et j'aurais dit, mais écoutez, c'est beau ce que vous vivez dans l'ordre de la grâce, cette volonté de demeurer fidèle au sacrement du mariage. Et moi, j'ai toujours dans mon cœur et dans mon esprit l'image de la Vierge Marie, qui est cette Vierge fidèle, etc., qui forcément est plus qu'un modèle, mais elle est la mère de toutes nos fidélités. Je dis, écoutez, ce serait trop bien que vous puissiez venir chaque année en pèlerinage à Lourdes, autour effectivement, comme vient de le dire Emmanuel, de la fête de l'Annonciation de la Vierge Marie, le 25 mars. Et c'est parti comme ça.
Voilà, tout à fait, et on est très heureux aujourd'hui de proposer ce pèlerinage pour que les gens viennent se ressourcer, viennent vraiment prendre des forces et prendre un appui qui est sur le roc. Lourdes est quand même assez fantastique, ce rocher. Quoi, c'est d'abord l'apparition de la Sainte Vierge à Bernadette, mais cet emplacement à côté du rocher, ce rocher qui symbolise bien sûr la présence du Seigneur et qui est en fin de compte notre vrai appui. Quand on est dans la séparation, on est comme déraciné, on est cassé, on est secoué, on est abattu. Et venir à Lourdes, c'est reprendre appui sur le rocher, sur ce qui nous sauve et qui est simplement le Christ lui-même.
Alors, c'est un deuxième pèlerinage, hein, 28, oui. 29 et 30 mars 2025, ici à Lourdes. Quel est le bilan? Quels sont un peu les retours du premier pèlerinage de l'an dernier, Emmanuel Houssin?
Alors, le premier pèlerinage a été sous la présidence de Monseigneur Pierre Dornelas, hein, archevêque de Rennes, qui nous a fait la joie de nous accompagner avec d'autres personnes, et dont le père Don Anne-Guillaume Vernecht, qui était le chapelain qui nous a enseigné sur les messages de Lourdes, et je dirais la cohérence entre ce qu'on peut vivre à Lourdes et ce que nous vivons nous aussi. Alors Lourdes, c'est le lieu de toutes les blessures, de tous les gens, de tous les fidèles qui viennent blessés dans leur vie, dans leur corps, dans leur psychisme, etc. Mais c'est aussi le lieu où on peut venir avec nos blessures affectives, hein, nos blessures de couple, nos blessures d'échec, de vie conjugale. Vous savez, parce que je suis moi-même divorcé, séparé, et je vis seul, au moment de ma séparation, j'avais rencontré des prêtres, des pastorales familiales, et la façon dont on m'a accueilli m'a un peu surpris, parce qu'on m'a dit « Emmanuel, va falloir faire le deuil de ton mariage ». Et là, je suis resté un peu comme deux ronds de flanc en disant c'est pas tout à fait comme ça que je vois mon mariage, parce que le mariage, il est toujours vivant avec le Christ. On est marié pour la vie, mais pas pour être accablé, mais justement pour vivre avec le Christ. Et donc, ce mariage, non, il n'était pas, et je ne devais pas faire le deuil de mon mariage. Je vais faire le deuil de ma vie conjugale, ça oui, parce que l'autre, on ne le maîtrise pas, il a sa vie, il a sa liberté, il a ses choix. Mais de mon mariage et de mon mariage devant Dieu, je ne peux pas en faire le deuil. Ce n'est pas possible.
Oui, c'est très beau ce que vous dites. Et moi, j'aime beaucoup cette volonté de la fidélité au sacrement du mariage, ce qui nous révèle, enfin, ce qui met en valeur. Et ça, on a parfois tendance à l'oublier, même dans une vie de couple qui fonctionne. Ça nous rappelle le primat de la grâce. On est fait pour la grâce. Le sacrement du mariage nous donne la grâce. On donne la grâce au couple, mais c'est les deux membres du couple qui reçoivent la grâce. Et tant que la personne reste fidèle au sacrement, même s'il y a une séparation de corps, même s'il n'y a pas de divorce, la vie commune, il y a une obligation de la vie commune pour la procréation, mais en elle-même, la vie commune n'est pas obligée au mariage. Par contre, la volonté de rester fidèle, parce que c'est cela qui appelle la grâce, donc ça, c'est l'image, l'exemple le plus beau de la Vierge Marie elle-même. Et puis de notre... moi, je suis prêtre, hein, donc je connais pas de vie de couple, mais il y a une fidélité aussi au sacerdoce qui montre... c'est nous, les prêtres, qui sommes célibataires, qui préparons les couples au mariage. Quel sens cela a-t-il, sinon celui-ci, de rappeler le primat de la grâce? Chaque personne est appelée à recevoir la grâce, et le sacrement du mariage est le lieu pour un couple pour recevoir la grâce. Et s'il y a une séparation, ça fonctionne toujours pour recevoir la grâce. Ça fonctionne toujours, parce que la grâce est toujours là.
Oui, alors c'est effectivement ce que l'on vit, quand on fait ce choix. Mais il faut au moins que ce choix soit conscientisé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes mariées sacramentellement et qui se séparent. On connaît les statistiques, elles sont phénoménales, mais dans le mauvais sens du terme. Le sacrement est toujours là. Et on a tendance à oublier qu'il est là. On a tendance à oublier que le Seigneur nous accompagne toujours dans toutes nos épreuves et nous accompagne sur ce chemin, mais qui n'est pas un chemin de mort, qui est un chemin aussi de résurrection, et on ressuscite avec le Christ. C'est pour ça que la venue à Lourdes est très importante, parce que c'est un chemin de grâce.
Oui, je voudrais continuer ce discours-là en disant, en fait, on a à tout instant dans notre existence, on a des moments de conversion, on est appelé à certaines conversions. Et il ne faut pas croire, on ne fait pas toujours que des choix libres, et parfois on subit des événements, et comme vous dites, on doit conscientiser une épreuve comme le divorce, par exemple, Bien, il y a des événements qu'on subit, mais dans lesquels on réimplique notre liberté et notre volonté, mais après coup. C'est vrai, je pense évidemment, dans le cadre d'une séparation et d'un divorce. Au départ, on ne la veut pas, et aucun des deux membres du couple ne la veut. Mais là, il y a cette grâce-là de pouvoir accepter, je l'assume, et je me réengage librement et volontairement avec ce souci de la grâce. Juste une dernière petite chose. Je pense que quand on se marie, évidemment, on a la vision idyllique d'un mariage d'amour ou d'un couple où tout fonctionne bien, deux jeunes qui se mettent ensemble et qui librement se sont choisis. Mais je voudrais vérifier de plus près, je suis pas sûr que ce soit toujours cela. Et je parle pas des mariages organisés comme ça pouvait se faire autrefois. Mais je pense que même dans un couple aujourd'hui, il y en a un qui veut l'autre, mais l'autre qui le veut pas forcément et qui finalement se dit, ok, d'accord, pourquoi pas. Et il y a un moment où il subit quelque chose et la personne, finalement, se réengage et réassume cet événement et se réengage dans sa liberté, dans sa volonté de choisir.
Donc on revient aussi sur la question du choix et cette liberté de redire oui. Hein.
Mais ça, c'est toute notre vie chrétienne. Oui. On subit des événements et dans lesquels on est appelé à s'y engager librement et volontairement.
Alors là, comment allons-nous traverser chacun de ces événements, des événements qui sont parfois des crises lourde, douloureuse, et vous donnez aussi votre propre témoignage, Emmanuel Loussin, aussi de cette douleur aussi de la séparation, cette douleur du divorce. Vous parlez aussi d'échec, vous parlez du deuil, mais c'est joliment dit, le deuil de la vie conjugale, mais il n'y a pas le deuil de ce mariage,
non, le mariage
et de ce oui qui a été donné le jour de ce mariage.
Tout à fait, il y a ce caractère définitif et on est là. Quand on a prononcé ce oui, on l'a prononcé devant les hommes, devant les autres, bien sûr, à
devant
son épouse,
témoin.
Devant témoins,
oui.
Et aussi devant Dieu. Et donc ce oui, il est donné dans l'éternité, il est donné pour toujours, et c'est ça qui nous permet aussi de rentrer dans une dimension spirituelle, une dimension profonde, où le Seigneur vient nous rejoindre, parce que lui, il n'a pas abandonné ce que l'on a dit.
Et c'est marqué dans
l'éternité.
Oui.
C'est magnifique.
Ce oui dans l'éternité.
Voilà.
Oui, non, c'est très beau. En fait, c'est le cœur de Dieu est fidèle, et il appelle l'humanité à rentrer dans cette fidélité. Et les uns après les autres, quoi. C'est pas un appel d'un seul coup. Donc je pense comme cela, il a commencé par la Vierge Marie, qui a subi un événement qu'elle n'avait pas du tout prévu. Elle s'y est engagée librement, volontairement, justement, dans son
fiat. Et liberté, hein. Volontairement,
mais
s'est engagée.
Mais d'abord, elle le subit. Ouais. Et elle se dit, j'y vais ou j'y vais pas. Et elle y est allée. Et elle est rentrée dans sa liberté à ce niveau-là. Et après la Vierge Marie, et avec la Vierge Marie, ou dans la Vierge Marie, parce qu'on est chrétien pour être attaché comme ça à la Vierge Marie, chacun d'entre nous, nous avons la capacité de dire un oui qui nous engage pour la vie entière. Parce que cette force-là, elle vient de Dieu. Elle vient de Dieu. C'est pas nous qui avons humainement la force de dire « Ok, je suis capable de tout ». Non, on brave là, parce qu'on connaît pas l'avenir. Par contre, spirituellement, avec la grâce, on a la force, mais cette force-là, elle est divine. Et là, on est au cœur du sacrement du mariage.
Ah oui, donc là, vous employez aussi ce terme aussi de divinité. Et puis de grâce, hein, ce oui donné le jour du mariage va s'enchaîner aussi pendant toute une vie portée par la grâce,
hein, oui.
qui est divine.
Et on a toujours cette possibilité de dire oui ou non à la grâce. C'est ça qui est extraordinaire dans notre liberté. C'est notre on a toujours ce choix de dire oui ou non. Alors, mais la vraie liberté, c'est de dire oui, parce que c'est là où on déploie cette relation avec le Seigneur qui nous met dans la joie.
Vous parlez de cette liberté. Quelle est la liberté aujourd'hui dans la vie conjugale, hein, dans les couples que vous rencontrez, que vous côtoyez, hein, l'un et l'autre?
Moi, c'est une question difficile, parce qu'on est tous à des niveaux différents.
Vous êtes chapelain ici, à Lourdes, en mission depuis 2016.
Oui.
Chapelain à la confession, donc le prêtre est aussi ce lieu, ce cœur et ces oreilles qui écoutent.
Oui.
Qui écoutent
au confessionnal,
des douleurs, des détresses
parfois.
On
absout, on pardonne.
Oui, oui. Tout est pardonné.
On est généreux, Dieu est bon et Dieu nous relève à chaque instant et nous redonne notre liberté. En vrai, la question question de la liberté, c'est une question des plus fondamentales de l'être humain. Hein. Et l'être humain n'est pas libre de dire oui ou non, de dire blanc ou noir. La véritable liberté de l'être humain, c'est d'accueillir la grâce, parce que c'est l'accueil de la grâce qui nous rend libres de pouvoir nous donner, de pouvoir nous engager. Si on dit non à la grâce, en fait, on s'emprisonne dans une dimension étriquée de l'humanité, déchue et blessée, alors que la grâce nous rend notre liberté.
Alors aujourd'hui, on a perdu cette grâce.
Alors, non, Dieu est toujours là. On l'accueille peut-être moins, on en est moins conscient. Moi, ma mission de prêtre, c'est de rappeler toujours le primat de la grâce pour aider tous les fidèles à se rappeler que, ah oui, il y a Dieu, et il y a le don de Dieu, donc c'est l'Esprit Saint et la grâce, mais Dieu ne nous a pas abandonnés.
Qu'est-ce que vous rappelez aussi sur la fidélité?
C'est pas la nôtre, c'est celle de Dieu en nous. Sinon, on n'y arrive pas. Parce que ça fait peur. Les jeunes, on dit les jeunes ont peur de s'engager. Je ne suis pas si sûr que ça. Hein. J'accompagne pas assez de jeunes au mariage pour voir s'ils ont vraiment peur de s'engager. Je ne suis pas sûr que ce soit la peur de l'engagement. C'est qu'ils n'en voient pas les enjeux, ni les enjeux de la grâce, précisément. Mais ils s'engagent dans plein de choses. Donc, il n'y a pas de vraie peur de l'engagement. Mais moi, ma mission, c'est de rappeler que Dieu est avec nous à chaque instant et que on peut prendre un engagement, on peut prononcer un oui, il sera porté. Pourvu évidemment qu'on maintienne le contact avec le Seigneur dans une vie spirituelle.
C'est le prêtre qui parle aussi. Oui, cette dimension aussi. On parle de ce sacrement de mariage, mais on parle aussi de séparation, jusqu'au divorce. Dieu reste fidèle. C'est nous qui restons infidèles.
Oui, alors c'est pour reprendre nos choix de vie. Eh bien, quand on arrive devant la séparation, devant l'épreuve, d'abord, avant qu'on arrive d'ailleurs à la séparation l'épreuve de la séparation, pardon, du divorce, ça veut dire que dans le couple, il y avait des tensions, ça veut dire qu'il y avait des problèmes, etc. Donc, on sent un peu le vent venir. Avant, on ne débarque pas comme ça tout d'un coup, sauf peut-être des cas particuliers où la personne découvre. Mais on sent cette tension qu'il y a des problèmes de communication dans le couple, on sent tout ça. Et à un moment donné, ben, quand la séparation est là, quand le divorce se profile, on a des choix à faire. Et là, c'est là où notre foi, elle peut nous porter. Hein, c'est dit dans... je ne vais pas dire exactement les mots, mais choisis la vie ou choisis la mort. Et en fait, choisir la vie, c'est faire confiance, faire foi à la parole de Dieu. Faire foi on n'aime pas ce mot-là, ce mot commandement. Mais c'est pas des commandements, ce sont des pistes pour être heureux, pour être libre. Et donc, choisir la vie, quand on choisit, je dirais, de faire confiance à la parole de Dieu, et qu'on prend conscience que notre mariage, il est indissoluble, il est réel devant Dieu, et il ne peut pas en être autrement, à ce moment-là, quand on choisit cette fidélité, eh ben, on est heureux parce que Dieu vient nous libérer. Et c'est là où on commence à éprouver la liberté des enfants de Dieu.
Alors aujourd'hui, vous êtes un homme libre.
Tout à fait.
Et vous êtes un homme heureux.
Je suis libre et heureux, ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas des tentations, parce que je suis aussi un homme physique, avec un corps, avec un esprit, avec, bien sûr, le fantasme d'une vie réussie avec une épouse, etc. Donc il y a toujours des tentations, il y a toujours des... on n'est pas encore dans un monde de bisounours, mais je sais que mon vrai bonheur, il est avec le Seigneur, est dans ce choix que j'ai fait de la fidélité.
Vous parlez de ces tentations, quels sont vos outils pour traverser ces périodes ou ces moments de tentation?
D'abord, on a
la prière.
On a la prière. On a notre détermination. On a aussi notre expérience avec l'âge, avec l'expérience. Ben, on sait ce qui est vraiment bon pour nous ou pas. Sinon, ça sert à rien d'avoir un passé et un avenir, quoi. La vie procure en nous une expérience. Et donc, cette expérience de la foi, cette expérience de la prière, cette expérience de la grâce, puisque, comme disait le père Don Guillaume, c'est pas par nos petits muscles et notre simple volonté qu'on y arrive, il y a aussi la grâce, sinon on ne fait rien sans la grâce. Donc il y a toute cette expérience, cette mémoire que l'on a de tout ce qu'on a vécu et aussi de nos chutes et de nos relèvements, puisqu'il y a le sacrement de réconciliation, et ben ça nous permet de faire mémoire de tout ce qu'on a vécu comme grâce avec le Seigneur et après d'en témoigner et de pouvoir annoncer cette bonne nouvelle, je vais dire, du sacrement du mariage à des personnes qui sont justement dans la séparation. Le sacrement du mariage est une bonne nouvelle. et qu'il faut l'annoncer à des personnes qui sont dans l'épreuve de la séparation.
Alors, certaines personnes vous écoutent aujourd'hui dans cette émission. Certaines d'entre elles sont certainement aussi dans une période peut-être de crise, des personnes dans un temps de séparation ou peut-être cette période aussi où l'acte du divorce est posé. Donc, douleur, peut-être révolte, hein, vous devez aussi en côtoyer. On les invite peut-être à ce pèlerinage de l'Alliance qui se tiendra à Lourdes des 28, 29 et 30 mars 2025. Venez nombreux, on va en parler dans cette deuxième partie d'émission dans quelques minutes, de nombreux intervenants, plusieurs communautés sont associées aussi pour vivre ce grand moment en fait, rassemblement qui me fait penser à un rassemblement aussi où se vit cette fraternité et puis un baume de consolation pour traverser peut-être des moments très éprouvants d'épreuves. Emmanuel Houssain, dont Anne-Guillaume, je vous propose de vous retrouver après cette pause musicale. À tout de suite.
Merci.
Présence. Vivante Église, Nathalie Cardon.
Suite de ce magazine Vivante Église, le pèlerinage de l'Alliance se tiendra à Lourdes du 28 au 30 mars. Il rassemble des personnes mariées vivant seules suite à une séparation ou un divorce. Et vous êtes, Emmanuel Houssain, le directeur de ce deuxième pèlerinage qui est un pèlerinage francophone.
Oui, francophone, puisque ce pèlerinage, au début, on le voulait national, en France. Et puis, on s'est aperçu que le problème de la séparation, du divorce, traverse aussi les frontières. Et nous avons eu la joie, l'année dernière, d'avoir des pèlerins venus de Belgique et de Suisse. Et nous avons déjà des inscriptions à nouveau de pèlerins venant de Belgique cette année. Donc, oui, c'est un pèlerinage qui traverse les frontières, mais qui est francophone, puisque les enseignements, les prédications, les messes sont en français.
Voilà. Il rassemble plusieurs communautés.
Tout à fait.
Vous pouvez les nommer.
C'est un pèlerinage que l'on a voulu à l'image du congrès mission. Congrès mission, tout le monde connaît maintenant les congrès mission. Il va y en avoir un à Paris d'ailleurs en novembre. Et ben, ce pèlerinage est à l'image du congrès mission. C'est-à-dire un pèlerinage qui rassemble toutes les énergies positives de l'Église catholique et qui sont quand même rattachées à ce mystère du sacrement du mariage. Et donc vous retrouvez dans ce pèlerinage le soutien d'associations comme les équipes Notre-Dame, la communauté de l'Emmanuel avec Amour et Vérité, notamment les animateurs du parcours Parents Seuls qui accompagnent des personnes dans la séparation et dans le divorce. Vous avez aussi les associations familiales catholiques qui sont soutiennent cette initiative. Évidemment, la communion Notre-Dame de l'Alliance qui accueille des personnes séparées, divorcées et qui font le choix de rester dans la fidélité. Les accueils Louis et Zélie qui sont une association très dynamique qui accueille des personnes en souffrance, quel que soit le type de souffrance, pas uniquement la séparation. Et puis vous avez la communion Priscille et Aquila qui va d'ailleurs intervenir pendant ce pèlerinage, qui est une association de couples missionnaires. Et c'est très très beau parce que ce sont des couples, donc des gens mariés sacrés mentalement, qui vont venir prier avec nous pour des personnes séparées, divorcées. Donc, c'est ce qu'on appelle vraiment une fraternité de personnes qui sont dans le sacrement du mariage, avec une vie conjugale, existante, ou une vie conjugale explosée. Voilà. Donc, c'est beau, cette fraternité, cette communion de prière. Et puis, le parcours Toby et Sarah de la communauté des Béatitudes, avec le père Michel-Martin Prével, qui sera également présent.
Alors, vous avez aussi de nombreux intervenants.
Oui,
dont le cardinal Philippe Barbarin.
Nous avons la joie d'accueillir le cardinal Philippe Barbarin. Nous avons aussi la joie d'accueillir le dimanche le monseigneur Jean-Pierre Battu, évêque auxiliaire de Toulouse, qui connaît très bien cette situation des personnes séparées et divorcées. Et puis nous aurons aussi, alors ce n'est pas sur l'affiche, mais c'est sur le site internet. Le site internet, c'est facile à se connecter sur le site. C'est simplement, vous tapez sur votre moteur de recherche pèlerinage de l'Alliance Lourdes 2025 et vous tomberez sur notre site internet qui présente les intervenants. Il y aura aussi Alex et Maude Loriot-Prévost qui ont été les cofondateurs de la communion Priscille et Aquila et qui vont intervenir sur le thème « Votre corps est le temple de l'Esprit-Saint », Corinthiens 1, vers le chapitre 6, 19.
Donc c'est un beau deuxième grand pèlerinage.
C'est un très beau deuxième grand pèlerinage.
Avec, puisque vous parlez de grâce, on imagine aussi toutes les grâces au cours de ce pèlerinage, car ces personnes, on l'entend bien, elles sont de belles rencontres aussi, de personnes qui ont la grâce de durer dans cette visite au mariage, qui vont soit écouter, prier sur ces personnes, c'est vous qui l'avez dit, Emmanuel Houssain, des personnes soit séparées, soit divorcées, qui vivent parfois malheureusement, douloureusement encore
cette séparation,
parce que vous avez parlé à plusieurs reprises d'échec. Vous le vivez avec le recul comme un échec aujourd'hui, ou c'est plus pour vous?
Non, ça reste le mariage, le projet de mariage. Quand je me suis marié, je n'avais pas comme projet de me séparer de mon épouse, et mon épouse non plus, quand elle s'est mariée avec moi, n'avait pas le projet de se séparer de moi. La vie a fait qu'il a fallu arriver à cette malheureuse extrémité, donc c'est quand même un échec objectif, je dirais. On ne se marie pas pour être séparé. Par contre, cet échec permet de révéler la grâce de Dieu à travers nos épreuves. Et c'est ça qui est magnifique. C'est comme pour les personnes qui ont des accidents, qui sont handicapées, etc., mais qui viennent à Lourdes et qui retrouvent à Lourdes cette force, cette foi, et ce bonheur d'être sur le chemin du Seigneur.
Ça me fait penser à une... Je me permets d'intervenir. Ça me fait penser à une petite phrase autrefois du pape Benoît XVI qui disait « Quand on est chrétien, on a toujours un avenir. » Et lui, il disait cela par rapport à la question de la mort. Quand on est chrétien, on a toujours un avenir. C'est sûr que quand on est chrétien, on est attaché à un tombeau vide. Donc ça, on est à toute extrémité là. Et la mort, c'est le plus grand échec finalement de la vie. Et nous, on est attaché à un tombeau vide parce qu'on sait qu'il y a un au-delà de la mort. Mais ça, ça se décline ensuite dans toute notre existence chrétienne. Mmh. Et on peut avoir des échecs, des obstacles, des murs qui se dressent devant nous, etc. On sait toujours, parce qu'on est avec le Seigneur, qu'il y a toujours une porte qui va s'ouvrir, quoi. Et toute situation humaine... Alors moi, je pense effectivement des couples qui peuvent se séparer, c'est douloureux, puis on pourrait dire c'est un échec. Oui, mais derrière tout cela, c'est un chemin de vie. Et dans ce chemin de vie, Dieu sera toujours là, il nous accompagnera toujours de sa grâce. Enfin, il nous appellera toujours à accueillir sa grâce, on va dire ça comme ça.
Et ce chemin de vie, c'est le sacrement du mariage, qui permet de le déployer. Le Christ est toujours fidèle, et donc il vient dans cette épreuve.
Alors, que dire, et là je pense aux auditeurs qui vous écoutent dans cette émission de Vivante Église, restons debout, restons vivants, restons aussi dans cette espérance aussi de la joie et de la résurrection. Que dire peut-être à ces couples, ces hommes et ces femmes individuellement qui sont dans une étape, un tournant de leur vie, dans une étape aussi de séparation et de divorce. Certains peut-être doutent d'aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous leur diriez, Emmanuel Houssain?
C'est une très bonne question. Ce que je leur dirais, c'est de ne jamais désespérer du Seigneur et de toujours se tourner vers lui. Et c'est pour ça que venir à Lourdes, c'est déjà le fait de vouloir aller à Lourdes et vouloir marcher vers ce lieu saint. Est déjà un signe d'espérance, est déjà un signe de volonté et que la personne peut faire. Et à Lourdes, c'est toujours un lieu de grâce. Donc, il ne faut jamais désespérer, il ne faut jamais s'enfermer dans son malheur, mais toujours se diriger vers celui qui peut nous relever. Et la grâce de Marie, qui est notre mère, est phénoménale. On a une vraie famille, c'est celle du ciel, avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais on a aussi Marie qui nous a été donnée par le Christ lui-même. Et donc, comment ne pas, ne pas se réjouir à venir au pied de la belle dame, comme disait Sainte Bernadette. Voilà.
Quelle est la grâce spécifique pour un tel pèlerinage, hein, dont Anne-Guillaume, qui rassemble des personnes blessées aussi par un échec douloureux d'une séparation et jusqu'au divorce parfois. Et ils sont malheureusement, les chiffres le disent donc eux-mêmes, sont importants.
Bon, moi, je regarde pas trop les chiffres, mais par contre, je vois la grâce. Et elle est grande et elle est belle. Le simple fait d'être à Lourdes, mais le simple fait de faire un pèlerinage, c'est-à-dire de quitter chez soi pour venir dans un autre lieu de grâce, bon, c'est Lourdes, tant mieux. Moi, je rends grâce. Ça change tout parce que ça veut dire qu'il y a déjà une volonté de la part de la personne de faire un pas en avant, de sortir de... Donc, le signe de l'espérance, il est déjà là, quoi. Rien que de venir, de quitter sa maison, de fermer la porte derrière soi pour prendre un train, une voiture, que sais-je. Eh bien, déjà, ça veut dire que la grâce commence à opérer parce qu'il y a une volonté d'ouvrir son cœur à quelque chose qu'on ne connaît pas encore, quoi. Et la grâce de Lourdes, c'est évidemment la rencontre avec la Vierge Marie, mais la rencontre avec d'autres personnes encore plus blessées que soi. Alors, quand on se regarde, on se désole, mais dès qu'on se compare, on se console parce qu'on voit que d'autres ont d'autres épreuves bien plus grandes. Je pense aussi aux pèlerins malades qui sont là. Ils ne sont pas forcément tous là parce que le pèlerinage de l'Alliance ouvre la saison des pèlerinages avant même tous les grands pèlerinages avec les hospitalités. Alors,
vous connaissez bien les pèlerinages puisque vous êtes vous-même coordinateur de tous les pèlerinages ici à Lourdes, donc vous pouvez aussi...
Je voudrais dire une chose aussi, parce que vous avez posé une question à Emmanuel, et en fait j'aimerais répondre aussi.
Allez-y, vous avez le droit,
Qu'est-ce que je dirais
Allez-y.
Qu'est-ce que je dirais En fait, je le dis aussi à des jeunes qui s'engagent dans le mariage, mais je dis à toute personne qui vit une crise, de revenir au commencement. Au choix premier que la personne avait fait. Qu'est-ce qui avait présidé à son choix? Quelle était sa volonté et quel était son projet? Ça, vous avez dit, quand on se marie, on n'a pas le projet de se séparer. Donc, il faut revenir toujours, en fait, quel était mon projet? Et on se rend compte que, ok, je vais vivre une séparation. Ce n'était pas mon projet. Mais mon projet, dans la volonté de rester fidèle, ce n'était pas de rester fidèle pour rester fidèle. C'était, on dit toujours, on revient toujours à ça, hein, l'obtention de la grâce, cette question de... Et donc, en fait, c'est ça qui... Le fait de revenir toujours au fondement, à la première pierre, au roc sur lequel on veut fonder, sur lequel on donne notre parole et on engage notre existence, il faut revenir toujours là-dessus. Et c'est à partir de là qu'on trouvera la force d'ouvrir le chemin de vie, même devant un échec, même devant un obstacle ou une épreuve. Et ça, c'est, je trouve, plein d'espérance. Et même, parce que là, on en a... pas parler, je ne sais pas si c'est l'occasion, on parle du pèlerinage de l'Alliance, pour toutes ces personnes qui sont fidèles au sacrement de mariage et qui ne contractent pas une nouvelle union, mais on pourrait aussi parler aussi de ceux qui sont remariés, qui sont réengagés dans une autre union, donc finalement ça reste toujours un chemin de vie, il faut toujours, moi j'inviterais toujours à revenir à quelle est leur volonté première pour donner le sens à une nouvelle union par rapport au Seigneur et comment trouver le chemin pour accueillir la grâce.
Alors il y a aussi une question de réconciliation dans toutes ces histoires aussi. Oh oui. On se sépare, on va jusqu'au divorce, il y a une nouvelle union, un nouvel engagement, un remariage, mais au fond comment je me situe personnellement devant le bon Dieu, parce que dans toutes ces histoires, et c'est une belle histoire, c'est une belle vocation que ce sacrement de mariage et ce oui aussi qui a été donné comme ici à Lourdes, et puis le jour de l'Annonciation, le beau oui aussi de la Vierge Marie qui peut être aussi un modèle, la Vierge Marie avec ce oui, cette fidélité, cette audace, non pas de courage mais d'audace. Alors qu'en est-il, et là je pense individuellement dont Anne-Guillaume, Emmanuel Houssin, aux auditeurs qui vous écoutent dans cette émission, se posent des questions sur peut-être le sens de leur oui, le sens aussi de leur fidélité ou non devant le bon Dieu, et puis c'est la question de la vie éternelle. Un jour, devant le bon Dieu, je vais devoir rendre des comptes, donc il y a une carte, une histoire de vie, voilà. Et qu'est-ce que j'inscris aujourd'hui, maintenant, dans mon histoire de vie? J'étais mariée, je ne suis plus mariée, j'étais fidèle, je ne suis pas fidèle, mais voilà, un jour je vais mourir. Vous l'avez rappelé à plusieurs reprises, Anne-Guillaume. Oui. Bon. Préparons-nous avec un peu de légèreté, puisque nous sommes aussi dans ce jubilé de l'espérance, l'espérance aussi du ciel, l'espérance aussi de l'éternité.
Ouais. En fait, tout ça, ça me fait penser que nos existences humaines ont une effroyable épaisseur. C'est extrêmement complexe, mais de cette complexité, Dieu fera une richesse. La complexité, les épreuves, les difficultés que l'on rencontre au quotidien d'une vie humaine ne sont pas là que pour nous empêcher de vivre et d'être heureux. Si on se tourne vers le Seigneur, il fera de cette complexité une vraie richesse. Et ça, faut vraiment le croire, quoi. Il n'y a pas de situation humaine qui soit désespérée, puisque précisément, quand on est chrétien, on est dans un chemin de vie et il y a donc toujours un avenir, même devant l'extrémité ultime qu'est la mort. un petit mot quand même par rapport à la Vierge Marie. Bon, moi, je suis très attaché à la Vierge Marie. Son fiat, là, le oui qu'elle dit, là, qu'il me soit fait selon ta parole, cet engagement, c'est infiniment plus qu'un modèle pour nous. La Vierge Marie ne nous est pas extérieure. Elle est notre mère, et donc son fiat, son oui, est source de notre propre engagement. Devant une épreuve, ce sera ce oui de la Vierge Marie prononcé en nous, parce qu'elle nous porte comme ses enfants, qui ouvrira les portes de l'avenir.
Marie porte du ciel.
Hein. Ah, oui, tout à fait. Alors, moi, ce que je pourrais dire, c'est que chacun doit se déterminer selon les grâces qu'il a reçues. Nous sommes tous avec des grâces que nous recevons dans notre parcours de vie et à laquelle on fait des choix de vie. Alors, moi, mon expérience, c'est bien sûr d'avoir choisi cette fidélité. Mais cette fidélité, ce n'est pas parce que je suis un super-héros, c'est simplement parce qu'elle m'a été donnée par grâce. Et il y a une parole de l'Évangile que j'aime beaucoup qui dit « À celui à qui on a donné peu, on demandera peu. À celui à qui on a donné beaucoup, on demandera beaucoup. » Et donc, quand on a reçu dans le cœur ce chemin de fidélité, ce chemin d'amour et de présence du Seigneur dans ce choix, à ce moment-là, on ne peut plus y résister. Et notre devoir, notre mission, hein, malheur à moi si j'annonce pas l'Évangile, notre mission, c'est de dire à nos frères et à nos sœurs qui sont dans la même situation. La parole de Dieu est non seulement elle est vivante, mais elle est source de vie et de joie. Elle est vraiment celle qui nous donne la vraie liberté. Voilà, on quitte le monde de l'addiction au monde de la plénitude spirituelle.
C'est très bien dit. C'est très beau. En fait, on a tous le mot n'est pas joli du tout. Il convient pas à une sorte de destinée, mais c'est pas un destin fictif. C'est une vocation. Dieu nous appelle, Dieu nous a créés pour lui, et on a cette vocation là. Et finalement, nos chemins de vie, aussi complexes soient-ils, sont toujours la possibilité de nous rappeler cet appel de Dieu et de trouver le chemin avec le Seigneur. On le trouve toujours. Quoi.
Alors c'est bien. Vous parlez de chemin. Vous parlez de vocation. Vous parlez d'appel de Dieu.
On a c'est dynamique.
De joie.
C'est
dynamique. De joie.
On parle de joie, d'espérance. On parle aussi, et merci, vous rappelez aussi ce oui de la Vierge Marie. Vous rappelez que vous n'êtes pas un héros vous-même. Non. Emmanuel, en choisissant de rester fidèle malgré la séparation, le divorce, à ce sacrement de mariage, j'ai presque envie de me rappeler, de nous rappeler. Et puis, n'oublions pas aussi ceux et celles qui vous écoutent, qui sont peut-être malheureusement touchés directement par cette douleur aussi d'une séparation ou d'un divorce. Vous avez rappelé, Don Anne-Guillaume, Emmanuel, cette fidélité de Dieu aussi. Voilà.
Tout à fait.
Et il reste fidèle. Alors, pour lui rester fidèle, peut-être qu'il est bon de préserver, de prendre soin aussi de cette cellule intérieure, de ce cœur à cœur avec Jésus, parce qu'au fond, pour rester fidèle, permettez-moi, Emmanuel Houssin, cette fidélité dans ce sacrement, elle est portée par la grâce, ça a été rappelé, mais une vie au fond, une vie intérieure.
Hein,
s'il n'y a pas d'intériorité, comment écouter Dieu? Comment rester dans le chemin, ce chemin et l'appel de Dieu, si on ne fait pas silence et si on ne prend pas soin de cette intériorité? Est-ce qu'il y a trop d'agitation, trop de bruit, trop de communication aujourd'hui dans les couples, les familles?
Il y a beaucoup de parasites autour de nous. Il y a beaucoup de parasites. Il y a le bruit du monde, comme on dit. Hein. Refais ta vie, ceci, cela. Voilà. Il y a tout le bruit du monde ambiant dans lequel on est, qui n'incite pas à cette intériorité, qui n'incite pas non plus à prendre la parole du Seigneur au sérieux. Voilà, tout simplement.
Il faut l'entendre.
C'est pour ça qu'il faut la redire, cette parole du Seigneur.
Vous avez parlé de cette parole du Seigneur, des commandements du Seigneur. Il nous rappelle, il nous invite à rester fidèles, mais pour l'écouter, pour rester sur ce chemin et répondre à cette vocation, faut-il faire silence ?
Il faut faire silence.
Oui, il faut faire silence, oui. En fait, c'est un souci de retraite.
Je vous demande de prendre la parole.
Non, vous allez voir. Il faut...
Mais je ne vous demande pas de faire silence.
On va parler. C'est le souci de son âme. Vous allez parler, c'est une très belle image, cette cellule intérieure, là, c'est notre âme. Et on a souvent tendance à l'oublier, parce qu'on n'y pense pas. Mais nous,
on n'en prend pas soin, peut-être.
On n'en prend pas soin, évidemment. Et le mariage, c'est d'un seul coup de vouloir prendre le soin de l'âme de notre conjoint. Et ça aussi, il faut y penser, quoi. on est en couple pour ça. Et tant qu'on n'a pas, dans un couple, touché l'intériorité... Alors, il y a des jardins secrets intimes qui ne concernent pas le conjoint, hein, j'imagine. Tout n'est pas forcément à mettre en commun. Mais quand même, un conjoint doit avoir vraiment le souci, jusqu'à une vive angoisse, du salut ou de la santé de l'âme de son conjoint. Et là, il y a une très belle dynamique qui peut se mettre en œuvre. Et d'une certaine manière, en restant fidèle après une séparation, c'est ce souci de la santé.
De porter l'autre.
Ouais. De la santé, pour pas dire le salut, de l'âme du conjoint qu'on a quitté. Quoi. Et en faisant cela, on sait qu'on prend soin de sa propre âme. Et pour tout ça, c'est vrai, oui, il faut du silence. il faut des temps de retraite. Moi, tous ces mouvements qui nous accompagnent dans l'organisation de ce pèlerinage proposent en permanence des retraites, des récollections, des moments dans des monastères, dans des abbayes, où justement on va se séparer un petit peu pour pouvoir se poser tout seul face à Dieu, pour se rappeler par rapport à sa vocation, son chemin de vie personnel, propre, et pour rechoisir l'autre, etc. Donc tout ça, ça doit nous aider. Bref, nous avons une vie spirituelle et il faut en prendre soin.
Alors, prenons soin de cette vie spirituelle. Et puis, tout si nous fait. Débutons encore plus pour prendre soin de ce sacrement reçu un jour et oui. de ce oui qui a été donné mutuellement. On arrive à la fin de cette émission. Emmanuel, un dernier mot peut-être?
Je me disais, il y a une belle parole dans l'Évangile qui dit « Celui qui écoute ma parole, en fait, qui met en œuvre mes commandements, mon Évangile, celui qui met en œuvre mon Évangile, celui qui écoute ma parole, mon Père et moi, nous viendrons chez lui faire notre demeure. » Et c'est ça, ouvrir son cœur, c'est se laisser pénétrer par la parole du Seigneur pour que lui-même y vienne y faire sa demeure.
Donc ouvrez la porte toute grande de votre cœur. Merci Emmanuel Houssin, merci Don Juan Guillaume, chapelain ici à Lourdes, et vous appartenez à la communauté Saint-Martin, et vous avez la coordination aussi de ces nombreux pèlerinages dans ce sanctuaire marial. Chers auditeurs, notez bien ces dates de ce deuxième pèlerinage de l'Alliance qui se tiendra à Lourdes les 28, 29 et 30 mars 2025. Vous trouverez toutes les informations supplémentaires concernant ce pèlerinage. Ne vous inquiétez pas, Emmanuel. Toutes les informations seront données sur ce podcast de Vivante Église. Merci à tous les deux. Et puis, merci à vous, chers auditeurs, de votre fidélité, puisque nous avons, tout au long de cette émission, rappelé aussi cette fidélité. Nous avons aussi des auditeurs très fidèles à notre radio, donc nous les encourageons. Et puis, on ne peut qu'encourager à la fidélité. Merci.
Merci beaucoup. Merci.
Au revoir. Merci.